les femmes au fil de l'histoire.
Une coproduction Marche mondiale des femmes et Radio BLV.
Chronique sur la préhistoire. Au travers de travaux d'ethnologues sur des sociétés contemporaines vivant de chasse, de cueillette ou de petite agriculture, et grâce aux recherches des anthropologues, nous allons tenter d'entrevoir la place des femmes dans la société préhistorique.
Et noi altri lavoratori vogliamo la libertà.
Par où commençons-nous notre remontée dans le temps ?
Nous commençons dans ces temps où il est difficile de déterminer la place des femmes dans la société, puisque cette période ne nous laisse aucune trace écrite. C'est avant l'apparition de l'écriture. Il s'agit de la longue période de la préhistoire. Comme nous, vous savez que l'on parle de l'homme de Néandertal, de l'homme de Cro-Magnon, de l'homo sapiens, de l'homme préhistorique. Homme, ambiguïté d'un mot prétendu neutre, il renverrait en effet aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Ce choix n'en a pas moins pour effet d'invisibiliser la femme préhistorique. Au XIXe siècle, où ce sont exclusivement des préhistoriens qui mènent des études sur la préhistoire, eux-mêmes étant des hommes, il n'est pas étonnant que le récit préhistorique qu'ils vont relayer soit calqué sur leur système de pensée à eux, un modèle quasiment exclusivement masculin. Quand on dit « invisible », on sous-entend que la place qui a été accordée aux femmes dans ce récit des premiers âges se trouve alors très largement conditionnée aux stéréotypes sociaux modernes. Pour le dire vite, l'homme fabriquant des outils, allant à la chasse, peignant les parois des grottes, déjà un héros, et la femme cantonnée à la caverne.
Les traces sont peu nombreuses. Quelques éclats de pierre, quelques fossiles, des tombes avec des objets. Comment appréhender les rôles respectifs des femmes et des hommes et leur rapport avec si peu d'indices, dis-nous, Marie-Jo.
Au XIXe siècle, mais aussi au XXe et de nos jours encore, les chercheurs mènent leurs recherches en faisant des analogies entre le mode de vie des sociétés de chasseurs-cueilleurs de la préhistoire et celui des sociétés de chasseurs-cueilleurs contemporains. Ainsi, leurs armes, leurs outils, leur manière de s'alimenter, leurs sépultures, leurs ossements contribuent à reconstituer les mœurs des sociétés préhistoriques. Tout d'abord, disons que ces analogies n'ont pas permis d'envisager l'existence de sociétés matriarcales, c'est-à-dire de sociétés régies par une domination féminine. Il est maintenant très largement admis que dès les premiers âges, les femmes n'ont pas accès à des domaines réservés aux hommes, telles que la guerre et la politique, elles sont écartées des décisions concernant la vie du groupe. Les endroits dévolus aux décisions leur sont interdits, avec dans certains groupes sociaux des menaces religieuses, de l'ordre de superstition et de tabou, pour mieux les asservir. Car au stade des recherches effectuées, il est également admis que la domination masculine est présente dès les premiers âges. Néanmoins, ces recherches par analogie mettent en évidence l'existence de sociétés dites matrilinéaires, où les femmes occupent une position prééminente, l'appartenance au clan se transmettant par la mère et non par le père. Les mères de clan ont un droit de veto sur la nomination des chefs, mais les chefs restent des hommes.
Et noi altri lavoratori vogliamo la libertà.
La recherche par analogie avec les sociétés actuelles de chasseurs-cueilleurs est-elle la seule façon d'avoir une idée sur les rôles respectifs des femmes et des hommes pendant la préhistoire ? Les hommes et les femmes y avaient-ils des rôles très définis, très différents ?
Les conclusions des premières recherches des 19e et 20e siècles ont tendance à mettre en évidence une division absolument sexuée du travail. Mais les lignes vont bouger à partir de la fin du 20e. En effet, différents facteurs vont faire évoluer les recherches. Un premier facteur est la féminisation du métier de chercheur. En effet, vers 1980, d'autres regards, féminins, vont permettre de commencer à ébranler bien des stéréotypes. D'ailleurs, vous voyez, pour revenir à l'existence ou non de sociétés matriarcales, Marilène Patou-Matisse, préhistorienne, relativise le discours ambiant. Citons-la.
Aucun indice ne nous permet à l'heure actuelle de penser que les sociétés paléolithiques étaient patriarcales. On sait par contre que les femmes participaient activement à la vie et à la survie du groupe. bien plus actif que ce qu'on a pu supposer par le passé. Dès lors, on peut penser que les relations entre femmes et hommes étaient plutôt équilibrées.
En fait, aucune preuve archéologique n'atteste une division sexuée du travail. En fait, rien ne prouve qu'elle ne pouvait pas aller à la chasse, par exemple. L'examen des os des néandertaliennes montre un bras beaucoup plus développé. À force d'écraser le grain, va-t-on nous rétorquer ? Pourtant, il se peut aussi que ce soit le bras qui lançait la sagaie. D'autant plus que le deuxième facteur qui va faire évoluer la recherche, ce sont de nouvelles méthodes scientifiques expérimentales qui vont permettre aux chercheuses, aux chercheurs, de se confronter à la tâche de fabriquer eux-mêmes des silex, des pointes de flèches et autres outils. Le constat est sans appel. Pas besoin de force pour parvenir à tailler, à polir, à fabriquer des outils, des armes pour la chasse. Les femmes pouvaient très bien le faire. Un troisième facteur va permettre à la recherche d'avancer encore. Les nouvelles technologies permettent la datation grâce au carbone 14, ainsi que des analyses chimiques sur les ADN fossiles. On va faire parler les indices, pardon, comme jamais auparavant. Et là encore, on va faire bouger les lignes. Ainsi, grâce aux vérifications ADN de squelettes, on a prouvé que retrouver dans leur sépulture des hommes au corps musclé et honoré par de multiples ornements sont en fait des femmes. Qu'est-ce que cela nous apprend ? Trois choses. D'abord, ces femmes ont une place importante dans la société, en attestent les ornements de leur sépulture. Ensuite, cela nous permet d'entrevoir la part de préjugés d'une interprétation, la prudence nécessaire en matière de conclusions qui peuvent s'avérer contredites. Dans ce cas, un corps musclé et robuste est immédiatement attribué à un homme. Souvent, surtout en ce qui concerne la préhistoire, on continue à réinterroger longuement les hypothèses avant de pouvoir corroborer les découvertes. Enfin, il ne s'agit pas non plus d'aller trop vite dans l'autre sens. En témoigne ce dernier point. Une anthropologue au CNRS, Priscille Touraille, en 2008, a émis l'hypothèse suivante. Le dimorphisme sexuel, à savoir l'ensemble des différences de stature entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire les hommes plus grands et musclés, les femmes plus petites et moins musclées. Cette différence ne serait pas naturelle, mais viendrait du fond des âges, où les femmes auraient été assignées à des alimentations sans viande, alors que les hommes bénéficiaient des protéines apportées par la viande, avec les conséquences imaginables que l'on peut avoir sur leurs organismes respectifs. L'hypothèse est naturellement aussitôt relayée largement, cette théorie remportant un grand succès, entre autres, auprès des féministes, qui peuvent y voir un fondement des inégalités.
Où en est-on de cette hypothèse ?
La communauté scientifique est unanime pour contredire cette hypothèse. Nous n'allons pas refaire le débat. Mais on lui objecte que le dimorphisme sexuel ni ne commence ni ne s'arrête à notre lignée humaine. Il en est de même pour beaucoup d'autres espèces animales et particulièrement chez les primates. De plus, cette hypothèse, jamais publiée dans un journal scientifique, donc non évaluée, ne tient pas face à d'autres hypothèses plus convaincantes pour expliquer le dimorphisme sexuel chez les humains. La sélection sexuelle est la plus solide, que ce soit via par le choix des femelles, qui choisissent toujours les mâles les plus forts, ou via la compétition entre les mâles, qui sont les plus forts à se faire respecter. Voilà.
Que pouvons-nous attendre de cette relecture de la préhistoire ?
Nous voyons, et ce sera notre propos pour conclure, que, oublié par les préhistoriens du XIXe siècle qui la confinent à un rôle de mère craintive, la femme de la préhistoire pourrait cependant être bien plus active et autonome que certains préjugés ne le laissent penser. Il est important pour les femmes d'aujourd'hui, pour nos sociétés, de rendre leur épaisseur aux femmes préhistoriques. En effet, redonner aux femmes le passé qui leur est dû est la condition même d'un avenir meilleur. La domination masculine est toujours visible. Nos actions pour nos droits à l'égalité le sont tout autant. Nous continuons le fil de l'histoire avec toutes ces femmes que nous allons rencontrer dans d'autres chroniques. Je vous remercie de votre attention.
Les femmes au fil de l'histoire.
Une coproduction Marche mondiale des femmes et Radio BLV.